Tous. Je suis content d'être parmi vous ce matin. Excuse-moi Francis, j'ai pas vraiment respecté au niveau des passages. J'avais pris un peu avant et un peu plus tard, mais il n'y a pas de souci à ce niveau. Alors je teste juste si la télécommande marche. Ouais, ça va, ça marche. Cool. Très bien. Alors, excusez-moi si je parle avec mon nez, c'est pas mon accent belge, c'est juste que je suis enrhumé en ce moment. Mais avant de commencer, je vous invite à prier. Père éternel, merci pour la croix, merci pour le don gratuit du salut par la grâce en Jésus-Christ. Et Père éternel, nous voulons ce matin comprendre ce salut, comprendre cette justification par la foi seule, être entièrement sous toi, Seigneur. Oui, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, Seigneur, nous voulons compter sur toi et sur ta face. Comprendre ce que tu as à nous dire à travers ce passage aux Galates. Et en même temps, Seigneur, transformer notre attitude, transformer nos habitudes, afin, Seigneur, de marcher sur la voie de la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Alors, comme vous le voyez, mon passage va être sur... Enfin, le message ce matin va être sur Galates 4, chapitre 8 à 31. Et donc là, vous reconnaissez la Mecque. Et comme vous le savez, plusieurs musulmans ont l'habitude de se rendre à la Mecque lors d'un pèlerinage à la fin du Ramadan. Et lors de ce pèlerinage, ils avaient l'habitude, les musulmans y vont en fait, parce qu'ils croient qu'en y allant, leurs grands péchés seront pardonnés. Autre image, le mur des Lamentations. Donc vous savez où se situe le mur des Lamentations, c'est un vestige du temple d'Hérode, détruit par l'armée romaine en 70. Mais ce mur donc est resté intact et c'est resté comme un endroit central pour le culte des Juifs. Donc ils ont l'habitude d'y aller pour fêter leur bar mitzvah, enfin ceux qui habitent en Israël, ou bien pour coincer des feuilles de papier. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais ils écrivent leurs prières sur des feuilles de papier et ils les coincent entre les murs parce qu'ils croient qu'en coinçant ces feuilles de papier de prière, eh ben leurs prières pourront être exaucées. Autre image, donc ça c'est un enfant qui est en train de se faire baptiser dans une église catholique. Alors on pourrait discuter des heures et des heures sur le baptême des enfants, mais mon point particulier c'est que sur la doctrine catholique du baptême des enfants, c'est que pour eux, le fait de baptiser un enfant en fait, ça permet à l'enfant de se séparer, de rompre le lien que l'enfant a avec Adam. En fait, ça permet d'effacer le péché originel. Dans leur doctrine, les catholiques croient que l'on est lié par Adam à cause du péché originel. Et à cause de cela, on va aller en enfer. Donc il suffit juste de se faire baptiser. Et lorsqu'on est baptisé, hop, on casse ce lien. Et donc là commence une nouvelle vie en tant que chrétien. Ça, c'est ce que croient les catholiques. Donc, je ne sais pas si vous devinez là où on se trouve. Donc là, on est plutôt en Inde, près du Gange, où les hindous ont l'habitude d'aller dans le Gange et de se laver, de se purifier. On appelle le rituel de purification. Ils sont des millions à vouloir y aller, à vouloir se baigner. Pourquoi ? Pour se purifier de leurs péchés. Et en même temps, Pourquoi font-ils cela? Eh bien, ça symbolise pour eux leur recherche de l'ultime vérité. Et c'est pas fini. Je pense que cette image peut-être est plus familière pour vous. Donc, ça représente le culte des ancêtres. Dans beaucoup de maisons en Asie, donc vous le savez peut-être plus que moi, on retrouve un petit autel où on brûle de l'encens, où on apporte de la nourriture pour les ancêtres. Et ce rite, en fait, permettrait, corrigez-moi si j'ai faux, ça permettrait de garder le lien entre les morts et les vivants. Donc l'ancêtre se voit offrir de la nourriture. Alors c'est clair que beaucoup de rites existent dans le monde. Des rites qui couvrent beaucoup de significations différentes. est vaste. Mais il est clair que pour nous, chrétiens évangéliques, lorsque nous voyons ces rites, on les voit d'une autre manière. Pour nous, ces rites sont quand même pas importants. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'en dehors de Jésus-Christ, tous les efforts des hommes sont vains, sont inutiles. On sait qu'en dehors de Jésus-Christ, faire des rituels, faire venir, enfin, partir à un pèlerinage, se baigner, se laver dans un fleuve, brûler de l'encens pour des ancêtres, tout cela est inutile. Et pourtant, parfois en tant que chrétien, on adopte des rites inconsciemment ou consciemment, qui tout doucement nous dévient de la voie de Dieu. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de croiser les mains, mais dernièrement, en fait, sur Facebook, j'ai appris qu'un de mes frères en Belgique était gravement malade. Et donc j'ai lu les commentaires, et une personne disait « Oh, on croise les doigts pour toi ». C'est ridicule, mais souvent, en fait, on tombe dans ce genre de piège. Et c'est bien plus que le fait de se croiser les doigts. Nous aussi, évangéliques, nous ne sommes pas à l'abri de rites ou de systèmes de pensée qui nous éloignent de la vérité et de l'évangile. Et c'est ce qui est arrivé aux Galates. Et c'est justement ce que nous allons voir. Alors, rapidement, on va faire un retour sur le contexte. Donc, vu qu'il y a eu les fêtes de Noël, il y a eu les vacances, donc le nouvel an, les cadeaux, la famille, donc on oublie tout un peu vite. Alors, les Galates. Les Galates ont rapidement changé l'évangile de Jésus-Christ que Paul annonçait. Et on peut voir ça dans Galates 1, chapitre 1, versets 6 à 7. « Je m'étonne que vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. » Donc là, c'est l'occasion de la lettre aux Galates. Voilà pourquoi Paul écrit sa lettre aux Galates. Il y a eu des personnes, les judaïsants, qui sont venus en Galatie, qui représentent à peu près la Turquie maintenant, et qui ont prêché un autre évangile, qui ont voulu déformer l'évangile de Christ. Et c'est ce que Paul va défendre. Donc l'apôtre Paul, par la suite, défend son apostolat et affirme que l'évangile qu'il prêche vient de Jésus-Christ lui-même. Il le dit dans Galates 1, versets 11 et 12. « Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Par cela, Paul montre que l'évangile qu'il prêche est supérieur à ce que les judaïsants, ces personnes qui prêchent la loi, viennent dire aux Galates, car ce que les judaïsants prêchent, c'est leur propre fond. Ils prêchent pour leur propre intérêt. Mais Paul affirme son apostolat en disant qu'il ne recherche pas la faveur des hommes, mais il recherche la faveur de Dieu. Les Galates ont cru que c'était par l'obéissance de la loi que leur salut était effectif à cause de judaïsants venus de Judée. Donc Galates 2, versets 15 et 16. « Nous sommes des juifs de naissance et non des pécheurs issus des nations. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. » Et c'était là l'erreur des Galates. Ils ont changé l'évangile pour instaurer un rituel, un autre système de pensée, un autre rite qui était contraire à l'évangile de Christ, qui est simple et qui est pur. Et justement, par la suite, Paul explique que c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on parvient à la justice de Dieu et que l'on est adopté. Galates 3, versets 26 et 29. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a ni juif, ni non-juif, Il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Voilà pour ce qui est du contexte. Donc on arrive rapidement au chapitre 4. Comme Francis l'a lu, les premiers versets du chapitre 4 reprennent cette dernière idée, le fait que nous avons été adoptés par Dieu et que nous sommes donc les héritiers de la promesse. Et c'est par cet esprit qui a été scellé en nous que nous pouvons crier « Abba Père ». Et donc, on arrive au chapitre 4 où Paul, à partir du verset 8, commence sur un autre ton, où il va les supplier, il va supplier les Galates de revenir sur le droit chemin. La justification par la foi seule, en leur rappelant premièrement d'où ils viennent, puis en leur montrant son amour ardent pour eux, et enfin leur démontrant qu'ils sont de la descendance d'Abraham, de la descendance de la femme libre. Donc, mon premier point, n'oubliez pas d'où vous venez. Donc, je vais lire les versets 8 au verset 11. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur? Vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons et aux années. J'ai peur d'avoir inutilement travailler pour vous. Paul commence donc en rappelant aux Galates d'où est-ce qu'ils viennent. Il leur rappelle par là que sans l'intervention de Dieu, sans l'élection de la grâce, sans cette miséricorde, sans le fait que Jésus-Christ se soit incarné et que Dieu, dans sa souveraineté, les ait spécialement choisis, ils seraient complètement perdus, cantonnés à un état permanent de méconnaissance de Dieu. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Il servait d'autres dieux. Et ici, le verbe « servir » en grec reprend l'idée d'un service d'esclavage. C'était un asservissement. Ils étaient des esclaves aux yeux de maîtres qui ne sont au final pas des maîtres, parce qu'ils ne sont pas des dieux. Mais grâce à Dieu, ils sont parvenus à la vérité de l'évangile par la prédication de Paul, qui justement nous libère de cet esclavage, de cet asservissement, qui libère l'homme des liens du péché et des œuvres mortes. Et justement, lorsqu'on regarde ceci, on se dit, mais voilà, ils ont été libérés, ils sont devenus libres, et ils ont acquis un salut qui ne dépend plus de leur progression personnelle, qui ne dépend plus de leurs actes personnels et de ce qu'ils font. Et donc, ils devraient donc continuer à vivre selon ce salut. C'est ce que tout le monde dirait. Et pourtant, non. C'est pas ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas ce que les Galates ont fait. Ils se sont décidés à retourner à des anciennes pratiques, à des principes élémentaires, en observant les jours, les mois, les années. Ces principes élémentaires, on peut les voir comme les pratiques des anciennes religions. Plus simplement, on peut voir ça comme le fait de pratiquer des œuvres pour pouvoir obtenir, pour pouvoir affirmer son salut. Et justement, Paul utilise ce mot de principe élémentaire pour, quelque part, se moquer des Galates. Parce qu'il leur dit, vous étiez païens, et en tant que païens, que faisaient les païens à cette époque-là? Bah, ils avaient le dieu du soleil, le dieu de la lune, le dieu du vent, du feu, et je ne sais quel autre dieu. Le dieu du tonnerre, Zeus par exemple. Et en observant, verset 10, en observant les jours, les mois et les années, c'est comme s'ils revenaient en fait sous cette doctrine, sous cet asservissement païen, le fait de vouloir encore consulter les astres, regarder le calendrier. Et ceci est une erreur grave, c'est une erreur grave. Le fait de retourner à une loi qui n'en est pas une et qui sert justement à rien quant au salut. Et au verset 11, Paul tire la conclusion qu'il a travaillé pour rien. Il a travaillé pour rien. Il a prêché pour rien. Il a eu peur de travailler pour rien. Parce qu'ils sont retournés à ce qu'ils adoraient. Au lieu de progresser, ils sont revenus en arrière. Ils sont revenus à un système d'œuvres méritoires, de justification par les œuvres. Mais vous savez, c'est tout à fait humain de penser comme ceci. Et cette erreur de doctrine des Galates est encore visible de nos jours. Et justement, c'est pas visible de nos jours juste dans les différentes religions que je vous ai montrées au début, mais c'est visible de nos jours même parmi nous, les évangéliques. Il y a dans les églises évangéliques une mauvaise compréhension de la justification par la foi qui amène à croire en des erreurs dans la vie de tous les jours. Laissez-moi illustrer ça rapidement. Est-ce que vous avez déjà, je sais pas, eu cette pensée en vous-même, oh, je ne suis pas un bon chrétien. Non, aujourd'hui, je suis vraiment pas un bon chrétien. Ce que j'appelle le syndrome de la culpabilité permanente. Je ne l'ai pas noté. Le syndrome de la culpabilité permanente. C'est un peu comme un sentiment vague qu'il est possible qu'on ait, car on craint que Dieu ne nous aime que parce, enfin, ne nous aime pas parce qu'on n'est pas assez bon. Parce que ce matin, on n'a pas lu notre Bible. C'est parce que ce matin, on n'a pas pris du temps avec lui. Parce qu'on n'a pas fait assez de bonnes œuvres durant cette semaine. Je ne suis pas un bon chrétien. Oh, qu'est-ce que je suis mauvais. Oh, qu'est-ce que j'arrête pas d'avoir ces mauvaises pensées. Oh là là, Seigneur, je mérite même pas ton amour, je mérite même pas ta grâce. Et souvent, on arrive à ce genre de pensée. Par exemple, deux amis qui se côtoyaient lors de l'université. Et justement, l'un des amis avait besoin d'argent. Et donc, il est parti demander à son meilleur ami qu'il avait l'habitude de voir, de lui prêter, disons, 100 euros. Et donc, cet ami lui a donné les 100 euros, et justement, il lui a promis, il lui a dit, je te promets, dans 2 semaines, j'ai mon salaire, et justement, en ayant mon salaire, je pourrai te rembourser. Les jours passent, une semaine, 2 semaines, et justement, l'homme qui a emprunté l'argent n'avait rien sur lui au bout des 2 semaines. Donc il se disait en lui-même, ah mince, si je vois cet ami, il va m'en vouloir, il va me dire, ah mais tu me dois 100 euros, mais je les ai pas sur moi. Donc du coup, petit à petit, il commençait à l'éviter. Il évitait à l'université, il lui parlait de moins en moins. Dès qu'il voyait, il prenait un autre chemin. Et donc, à cause de son problème, du fait qu'il avait promis de le rembourser et qu'il ne peut pas, il y a comme une communion qui a été rompue entre ces deux amis. Ils avaient l'habitude de discuter ensemble, ils avaient peut-être l'habitude de prier ensemble, de se voir souvent. Mais à cause de cette fausse culpabilité, mince, j'ai pas assez, il va m'en vouloir. Communication rompue. Et c'est un peu la même chose par rapport à notre relation avec Dieu. Cet ami, plus tard, retrouve l'ami qui lui a donné de l'argent. Et l'ami qui lui a donné les 100 euros lui dit, mais où étais-tu passé tout ce temps? Ça fait 4-5 mois qu'on se parle plus comme avant. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu m'évites? Pourquoi est-ce qu'on passe plus autant de temps ensemble? Et l'homme répond, mais ah, désolé, mais j'avais pas assez d'argent, j'avais pas les 100 euros que je t'avais promis au bout des 2 semaines, donc j'osais pas venir te voir. Et l'autre répond, mais non, mais les 100 euros, mais c'est pas grave, on est amis, tu me les rembourseras quand tu voudras. Mais c'est pas une raison pour qu'on ne se voit plus, pour qu'on se parle plus, pour qu'on coupe cette relation. C'est pas une raison. Et justement, comme je l'ai dit, c'est pas une raison à cause. C'est pas parce que nous péchons tous les jours que nous devons nous dire en nous-mêmes, ah oh Seigneur, aujourd'hui je suis trop imparfait, je suis pas assez pur. Laisse-moi juste une semaine le temps que j'arrête de faire tout ce que je fais, le temps que je change mes pensées, le temps que je me repose. Et la semaine prochaine, je te promets, je serai mieux au culte. Le problème avec ce genre d'idée, c'est que tout comme les Galates, on arrive à perdre de vue la justice de la foi miraculeuse. Et comment retrouver cela? Comment retrouver le fait qu'on se base que sur la justification par la foi? Déjà, premièrement, tu dois renoncer à toute idée de ta propre justice tous les jours. Tu dois renoncer à toute ta propre justice tous les jours. On peut voir Paul qui avait cette idée derrière lui en Philippiens 3, verset 7. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Bien souvent, nous pensons que nous pouvons contribuer à notre salut, apporter quelque chose. Oui, Seigneur, tu m'as sauvé. Bah tiens, je t'apporte quelque chose en retour. Mais Paul ici parle en termes de comptabilité. C'est-à-dire que ce qui est en ma faveur, ce qui est pour ce qui est du passé, donc par rapport à la conversion, et pour ce qui est du présent, maintenant que je suis converti, tout ce qui est en ma faveur, en fait, ce n'est rien. Toutes choses sont comme une perte pour moi. Malgré toute ma progression chrétienne dans la sanctification, malgré le fait que je suis plus discipliné que je l'étais il y a 5 ans, malgré le fait que je n'ai plus les mêmes péchés que lorsque j'ai commencé à entrer dans la vie chrétienne, malgré ceci, tout cela est comme une perte. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien en nous qui soit assez pur. Il n'y a rien en moi qui soit assez pur. Il n'y a rien en toi qui soit assez pur pour que Dieu t'accepte. Il n'y a rien en moi qui soit assez pur pour que Dieu m'accepte. Et donc, tout ce que je suis, tout mon être, moi-même, je dois le regarder comme une perte. Pourquoi ? Pour gagner Christ, pour le gagner. C'est quelque chose que l'on doit vivre au présent. Si je suis en règle par rapport à la justice de Dieu, cela n'a rien à voir avec ma bonté ou avec mes progrès. Jésus est venu pour, non pas pour remplir les trous, mais Jésus est venu parce que nous sommes un trou, nous sommes un vide intersidéral comme un trou noir. Et seule la perfection de la justice divine de Jésus-Christ peut nous rendre juste devant Dieu. Nous n'avons rien à apporter à Dieu. Sauf que le problème, c'est que nous pensons que nous avons une propre justice de soi, à force de faire des progrès. Les Galates pensaient que Jésus-Christ était 99%, et moi, Galate, 1%. Jésus-Christ, c'est vrai, il a accompli le salut, c'est vrai, je ne veux pas nier ça, mais il faut encore que j'obéisse à la loi. Il faut encore que je respecte certaines règles. Il faut encore que j'observe toutes les fêtes, tous les sabbats. Il faut encore que je sois circoncis. 1%. Le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Un homme, un grand criminel, s'est fait arrêter. Et la sentence était 40 coups de fouet. Cet homme désire un substitut. Il dit « Je ne pourrais pas supporter les 40 coups de fouet, je vais mourir ». Et donc il décide de diviser la peine. Il dit, voilà, j'ai trouvé quelqu'un, lui prend 20, moi je prends 20. Problème, c'est que la peine n'a pas été vraiment prise en compte. Qui a eu 40 coups de fouet ? Personne. Chacun a eu 20, chacun a eu 20. De la même manière, Dieu exige une vie entière de justice. Dieu exige une vie entière de justice. Et nous sommes déjà disqualifiés. Tout ou rien. Deuxièmement, tu dois tâcher de trouver ta joie et ta gloire dans l'amour merveilleux de Dieu pour toi et en Christ, ta seule et suffisante justice. Paul l'illustre dans Philippiens 3, versets 8 et 9. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ce en quoi on met notre gloire, c'est pas en nous-mêmes. C'est pas en mes propres efforts, c'est pas en mes propres progrès. C'est en Dieu seul, en sa justice et en Jésus-Christ seul. Et c'est grave de penser que nous sommes responsables de notre propre bonheur par rapport à notre salut, par rapport à notre propre justice. C'est grave de penser cela, que mon bonheur en tant que chrétien dépend de mes efforts personnels, dépend du fait qu'un jour j'ai réussi à lire ma Bible et que l'autre jour je n'ai pas réussi à lire ma Bible. Notre bonheur ne dépend pas du tout de cela, et il ne dépend pas aussi de nos progrès, même si nous faisons des progrès, et même si c'est vrai, nos progrès nous rendent joyeux. Mais pourquoi nos progrès nous rendent joyeux? Parce que notre bonheur dépend de la justice de Dieu, et de Dieu seul. C'est Jésus-Christ qui travaille en nous, c'est Dieu qui travaille en nous par le Saint-Esprit, et qui nous amène à progresser. Et c'est par ces progrès que nous voyons le travail de Dieu en nous. Et que nous pouvons lui rendre grâce et gloire et trouver et fonder toute notre joie en lui. Dans la justice de Dieu, on n'a pas plus de faveur un jour qu'un autre. On n'a pas plus de faveur envers Dieu parce que nous avons eu 10 ans de vie chrétienne plutôt honorable aux yeux des hommes, ou parce que nous avons fait un grand acte missionnaire, que nous sommes partis au Sénégal, que nous sommes partis en Belgique. On n'a pas plus de saveur aux yeux de Dieu. Dieu est pour nous tous les jours. Alors, ne soyons pas comme les Galates, en créant un système de propre justice personnelle, en pensant que nos efforts feront que Dieu nous regarde plus favorablement. Mais regardons sans arrêt à Jésus-Christ, comme Clément nous l'a rappelé ce matin avec le verset dans Hébreux 13. C'est en lui que nous devons regarder, et c'est par notre union avec lui que nous sommes favorables aux yeux de Dieu, et c'est par notre union avec lui que nous pouvons progresser dans la vie chrétienne. C'est par notre union avec lui que nous sommes justifiés, et c'est ça la justification par la foi seule. Paul continue son argument sur la justification par la foi seule en montrant son amour ardent pour les Galates. Je lis les versets 12 à 20. Frères et sœurs, je vous en supplie, soyez comme moi, car moi aussi j'ai été comme vous. Vous ne m'avez fait aucun tort, mais vous le savez, c'est à cause d'un problème physique que je vous ai annoncé l'évangile pour la première fois. Verset 14. Et mis à l'épreuve par mon corps, vous n'avez montré ni mépris, ni dégoût. Au contraire, vous m'avez accueilli comme un ange, comme Jésus-Christ lui-même. Où est donc l'expression de votre bonheur? En effet, je vous rends ce témoignage. Si cela avait été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle que ces gens manifestent pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir constamment du zèle pour ce qui est bien, et pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être, en ce moment, auprès de vous et pouvoir changer de ton, car je suis dans l'embarras à votre sujet. Et c'est dans ce texte que ça chauffe. J'aimerais être présent au milieu de vous pour pouvoir changer de ton. Et là, on sent vraiment que Paul, quelque part, est en colère contre l'idée des Galates qui se soient détournés, en fait, de l'évangile. Mais ce ton-là, en fait, manifeste quelque chose de vraiment important. l'amour que Paul a pour les Galates et l'amour que Paul a pour la vérité, l'amour ardent. Paul, déjà, premièrement, effectue un rapprochement entre lui et les Galates. Donc au verset 12, il dit « Je vous en supplie, frères, soyez comme moi, car moi aussi, j'ai été comme vous. » Alors, sûrement dans vos versions, vous avez « J'ai été comme vous. » C'est préférable de dire « Car moi aussi, je suis comme vous. » C'est une question de relation entre Paul et les Galates. « Soyez comme moi, car moi aussi, je suis comme vous. » Par cette phrase, on voit l'affection que Paul a pour les Galates. Tout comme eux, il est sans loi. Paul, même si il était pharisien, il était juif, il était hébreu, né d'hébreu, de la tribu de Benjamin, il s'est consacré à être un apôtre parmi les païens, les non-juifs. Et comme cela, il a décidé de vivre comme un non-juif. Lui qui était juif, il est devenu un non-juif. Il est devenu comme eux, à eux qui les Galates, qui sont juifs, mais qui bizarrement veulent retrouver un système de loi. Paul, par ce verset, dit que ses intérêts spirituels sont les mêmes que les leurs. Que moi, si en tant qu'apôtre, je suis devenu comme vous, c'était pour vous gagner. Alors pourquoi est-ce que vous décidez de revenir à la loi? Pour paraphraser, on peut dire, on est identique. Paul est en train de dire, on est identique. Et juste après, il dit, vous ne m'avez fait aucun tort. Par là, Paul est en train de dire que son ton dur n'est pas là pour un règlement de compte. Donc voilà, je viens pour régler mes comptes, mais pour dire que c'est parce qu'ils se sont détournés de la vérité et cela le préoccupe vraiment. Et par la suite, il rappelle les circonstances de la rencontre entre Paul et les Galates, le fait qu'il était malade. Donc peut-être que vous ne savez pas, mais la région là où il est passé, là où sont les Galates, c'était une région marécageuse et c'est sûrement pendant son voyage qu'il a dû attraper une maladie. Et en même temps, il est en train de montrer que les Galates aussi ont eu de l'affection pour lui. Le fait que même s'ils l'ont vu, peut-être qu'il était borgne, peut-être qu'il avait un problème à l'œil, eh ben ils ne l'ont pas rejeté, ils l'ont accepté. Ils étaient même capables d'arracher leurs yeux pour lui donner. Et donc, cela montre vraiment toute l'affection qu'il y a entre Paul et les Galates. Et Paul montre que son ton dur n'est pas juste de l'énervement doctrinal. « Oh, t'es dans l'erreur doctrinale, tu fais n'importe quoi, t'as pas compris la justice par la foi. T'es pas calviniste ?» Non, je rigole. C'est pas ce que Paul est en train de dire. Paul est en train de montrer qu'il y a un intérêt, qu'il a un intérêt pour eux, tout comme eux ont eu un intérêt pour lui en l'acceptant. Par la suite, au verset 15, Paul dit « Où est donc l'expression de votre bonheur ?» Où est donc l'expression de votre bonheur ? La joie avec laquelle les Galates avaient reçu l'évangile avait sûrement disparu. Pourquoi ? Peut-être parce qu'ils s'étaient détournés simplement de l'évangile, de la vérité de l'évangile, de sa simplicité, que peut-être des doutes s'emparaient d'eux dans leur vie. Probablement, ils étaient troublés par l'idée d'observer jour et nuit la loi, de cette observation de rigueur de la loi. Et peut-être qu'ils avaient aussi rejeté Paul et son enseignement à cause des judaïsants. Et peut-être qu'ils n'éprouvent plus de joie à son égard, disant à Paul, moi je connais pas. Et surtout, peut-être qu'ils n'éprouvent plus de joie par rapport à l'évangile de Jésus-Christ. Vous savez, ce qui est malheureux dans la vie du chrétien, c'est lorsqu'il perd sa joie de vivre, cette joie qui est un reflet de sa relation personnelle avec Dieu. Même le chrétien, dans les pires moments de faiblesse, dans les pires moments d'épreuve, peut attendre patiemment avec joie la délivrance de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il met sa confiance, non pas en ce que la vie ici sur terre sera parfaite, va perdurer jusqu'à la fin, mais il a une espérance profonde parce que son royaume n'est pas d'ici, mais il est là-haut. Et le fait d'avoir une mauvaise pensée, d'avoir une mauvaise conception de l'évangile de Jésus, peut-être nous aussi ça nous amène à perdre notre joie en tant que chrétien. Par ces versets, on voit clairement les dégâts que font les mauvaises doctrines dans la vie de ceux qui les pratiquent. La joie n'est plus là. La simplicité de l'évangile est remplacée par tout un système qui nous éloigne de Dieu. Comme un bateau, on est à la dérive, on tangue. De la même façon qu'un navire quitte le port, de la même façon, on s'éloigne de la terre ferme. On va se perdre dans le vaste océan. Et cela est visible à plusieurs niveaux. Lorsque nos priorités pour cette vie sont supérieures à celles de nos priorités pour la vie céleste. Lorsque l'on veut la réussite, lorsque l'on est ambitieux, lorsque l'on pense plus à son compte en banque qu'à la soif des âmes, lorsque l'ego prend le pas sur l'évangile, lorsque la santé, la protection ou le succès dans les affaires sont des priorités. Et ces choses, s'ils peuvent nous éloigner fortement de Dieu. Certaines sont vraiment mauvaises et dangereuses, il ne faudrait pas les pratiquer. Mais il est vrai que sur cette terre, Dieu nous a donné des plaisirs. Mais le danger, c'est que ces plaisirs prennent une importance capitale dans nos vies. Lorsque la coquetterie prend tellement d'ampleur que on dévisage dans la rue ou même dans l'église ceux qui s'habillent, on dit « Ah, c'est pas stylé ça ». Lorsque l'amour des belles choses, du marbre, de l'or, nous conduisent à vraiment avoir un comportement compulsif à la vue de ce genre de choses, et dire « Ah, il faut que je l'aie !» Comment est-ce qu'on peut honorer Dieu dans nos vies lorsque ces sentiments sont en nous et prennent une priorité sur la place de Jésus-Christ et de son évangile? Prenons garde, mes frères et mes sœurs, de ces petites choses qui, dans la vie de tous les jours, nous éloignent de Dieu. Et pourtant, Paul continue pas à frapper sur les Galates avec un marteau, mais il montre que par son affection, il veut les ramener. C'est une marque profonde de son amour qui le lie aux Galates. En reprenant l'idée de l'enfantement, Paul montre son désir de travailler, de ressentir la douleur même à l'idée qu'il soit éloigné, et de vraiment vouloir que Jésus-Christ soit formé en eux. Comment est-ce que Paul peut éprouver les douleurs de l'enfantement? Comment est-ce qu'il peut éprouver ces douleurs qui sont décrites parmi les plus atroces? Comment travaille-t-il pour eux? Comment va-t-il former Christ en eux? Assurément, par la prière, par le jeûne, en les exhortant, en les enseignant, par la parole. Et tout ceci demande des sacrifices, ça demande du temps personnel. Et Paul est prêt à le faire. Pourquoi? Par amour pour les Galates. Parce qu'il sait que c'est prioritaire. Et que c'est ça qui compte sur cette vie terrestre. Et je crois que cette image de l'amour de Paul pour les Galates est une image de l'amour de Christ pour son Église. Jésus-Christ s'est sacrifié pour son Église. Il n'a non pas regardé à sa position de Dieu, mais il a pris une forme de serviteur, comme nous le dit l'Épître aux Philippiens. Pourquoi? Pour nous racheter, il est devenu péché. Il a été maudit, pendu au bois. Il s'est sacrifié pour que nous puissions, nous, avoir une relation avec Dieu. Et c'est là l'amour de Dieu. C'est là l'amour de Dieu. Et on peut voir même dans l'Ancien Testament l'expression de cet amour. Un verset que j'aime beaucoup. Bon, on va ouvrir nos Bibles dans Sophonie 3, versets 16 et 17. Sophonie 3, versets 16 et 17. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, « N'aie pas peur, Sion, ne baisse pas les bras. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Puis, il se réjouira à grands cris à ton sujet. » Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Ça, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est ce qui devrait vraiment nous rendre joyeux. Le fait que, ayez même en idée, ayez même en tête, Dieu qui dans son amour nous attend, nous regarde dans le silence, puis en nous voyant, commence à crier, à se réjouir de nous voir. Et c'est vraiment ce que dit ce verset. Et c'est ce que le sacrifice de Jésus-Christ envers nous a produit, a vraiment montré cet amour que Dieu a pour nous. Et justement, Paul sait que maintenant il souffre, mais que plus tard viendra la gloire de voir justement les Galates, qui, en enlevant cette idée de la justification par les œuvres et par la loi, sont retournés à une justification simple par la foi. Et justement, qu'en est-il de nous ? Est-ce que nous avons, comme Paul, une passion pour les âmes perdues ? Avons-nous un désir de voir en frères et en nos sœurs Christ qui est en train de se former en eux ? Est-ce que nous sommes prêts à sacrifier de notre temps, prêts à sacrifier de nos plaisirs, de nos loisirs, pour ce qui est prioritaire ? Voir nos frères et sœurs grandir dans la foi, voir Christ grandir en eux. Est-ce que nous avons un amour ardent pour les non-chrétiens, pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu encore, prêts à leur annoncer l'évangile et à leur dire que le salut de Dieu est maintenant, que le temps de la grâce c'est maintenant et qu'il est possible encore d'échapper à la colère de Dieu en croyant que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Notre modèle, c'est Jésus. De la même manière que le modèle de Paul, c'était Jésus. De la même manière, notre modèle, c'est Jésus. De la même manière que Paul montre son amour ardent pour les Galates en voulant les corriger, de la même manière, montrons notre amour ardent entre nous en passant du temps ensemble. Et cet amour, c'est exprimé dans 1 Jean 4, verset 7. À 11. 1 Jean 4, verset 7 à 11. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour ne consiste pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Et je terminerai donc par ce verset qui nous rappelle à quel point l'amour de Dieu envers nous a été profond, a été sincère, au point même qu'il s'est sacrifié. Et donc pour conclure, j'aimerais qu'on se souvienne qu'on peut facilement, nous, en tant que chrétiens, être asservis dans nos manières de penser qui ne sont pas justes, qui ne sont pas correctes, dans nos manières de vivre qui ne sont pas conformes à l'Évangile. Il faut donc sans cesse que nous ayons les yeux tournés sur Jésus-Christ. Et bien sûr, cela demande du travail. C'est pas juste quelque chose qui vient comme ça. Hop, je suis tourné vers Jésus-Christ. Nous devons ouvrir nos yeux spirituels, les yeux de notre âme, comme Tozer décrit et comme il définit la foi, il la définit comme étant les yeux de l'âme qui tournent son regard vers Dieu seul. La justification par la foi, c'est le fait de chaque jour, comme nous l'avons chanté, tourner nos regards vers Jésus-Christ. Et il y a un moyen simple d'illustrer ça. Parce que c'est facile de dire et de chanter, je tourne mes regards vers Jésus-Christ, je tourne mes regards vers Jésus-Christ. Mais c'est différent de l'expérimenter. De la même manière que ce monde est réel, le monde spirituel est réel. Mais on ne peut pas le voir avec nos yeux physiques. On peut le voir qu'avec nos yeux spirituels. En nous exerçant à entretenir cette foi envers Dieu, petit à petit, avant d'être aveugle. Ben, lors de notre conversion, nous étions aveugles, donc de la même manière que là, je ne vois pas ce que je ne sais pas où je suis. De la même manière, lorsque nous n'étions pas encore chrétiens convertis, nous étions aveugles, complètement à l'ouest par rapport à Dieu. Puis Dieu, Jésus-Christ, dans son amour est venu, il nous a ouvert les yeux. Et nous commençons à voir. Mais souvent, nous commençons juste à tâtonner. Mais le progrès dans la vie chrétienne, c'est le fait de petit à petit ouvrir ses yeux et être conscient que Dieu est présent. Maintenant, en ce moment, que Dieu est présent lorsque tu rentreras dans ta voiture, que Dieu est présent quand tu seras chez toi ce soir, que Dieu est présent lorsque tu rentreras au travail ou à l'école, que Dieu est présent. Et c'est le fait de prendre conscience de cette présence et de compter non pas sur moi-même, mais sur le fait que j'ai ma justice en Jésus-Christ. Et donc, ce Dieu qui est présent, ce Dieu qui est là, je peux rentrer en communion avec lui à n'importe quel moment. Et cela se travaille. Il y a une discipline à avoir. Mais ces efforts, c'est pas des efforts pour dire après, j'ai ma propre justice, mais c'est des efforts dans l'œuvre de Jésus-Christ, en comptant sur lui. Voilà en pratique ce que nous devons faire et nous devons nous exercer. Moi le premier. Merci.